Marc Toiti, bonjour. Vous venez de sortir un ouvrage aux éditions du Moment, Quand la zone euro explosera. Alors on est entre les deux tours de la présidentielle, donc c'est plutôt le moment de faire le point. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et tout d'abord, quel est l'état de l'économie dans cette crise, l'économie de la France et peut-être de la France comparée à ses partenaires?
Alors bonjour à tous déjà, et effectivement, je pense qu'on a un problème essentiel. Malheureusement, la campagne électorale est extrêmement médiocre. Sur le front de l'économie, on l'a encore vu d'ailleurs dans le dernier débat des finalistes. Bien sûr, on parle d'économie, mais il y a beaucoup de contre-vérités, beaucoup d'approximations, et on ne rentre pas justement dans le détail. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Par contre, la compagnie s'en passe, malheureusement, la France, depuis maintenant 10 ans, génère chaque année une croissance annuelle moyenne de seulement 1,2%. C'est la croissance annuelle moyenne depuis 10 ans, c'est extrêmement faible, et c'est à peu près la même performance à l'échelle de la zone euro. Donc on ne fait pas mieux que les autres ou plus mal. Par contre, sur ces 5 dernières années, la croissance moyenne de la France, ça n'a été que de 0,5% par an. Donc c'est encore extrêmement faible. Et alors encore pire, sur les 4 dernières années depuis 2008, ce n'est que 0,07% par an. Donc, bien sûr, il y a pire que nous. C'est clair, mais moi je pense que pour un pays comme la France, il faut plutôt regarder ceux qui font mieux que nous. Et notamment nos voisins allemands, notamment nos partenaires américains, sans évidemment parler des pays émergents, mais ça, à l'arrière, c'est un petit peu logique. Mais donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si la France est effectivement mieux que le Portugal ou que la Grèce, bon, j'ai envie de dire heureusement. Par contre, par rapport à notre grande économie qui nous ressemble, à notre grande sœur, finalement, notre sœur jumelle en Allemagne, on fait beaucoup moins bien. Donc, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et dans le même temps, on voit bien qu'on en parlera, je pense, mais les mesures qui sont proposées par nos candidats sont très très loin du compte, malheureusement.
Alors, dans votre ouvrage, vous indiquez clairement que la zone euro pourrait être amenée à disparaître et que ses jours sont peut-être déjà comptés. Qu'en est-il?
Alors, on rassure évidemment les auditeurs, c'est anxiogène, bien au contraire. D'ailleurs, ça s'étale sur 30 ans avec toutes ces crises, donc ça raconte beaucoup d'anecdotes également, donc c'est un livre très pédagogique, très ouvert, un très grand public. Justement, je pense que le rôle des économistes, et peut-être aussi des politiques ou des journalistes, c'est de faire mieux comprendre l'économie. Et vrai que malheureusement, on n'est pas tellement aidé en France, parce qu'on a une culture économique qui est très faible, des économistes qui souvent sont complètement abscons, on ne les comprend pas, et des politiques qui sont refusent d'aller dans le fond du problème. Donc c'est aussi pourquoi j'ai fait ce livre, mais c'est vrai que justement, le danger qui nous menace, c'est le risque d'explosion de la zone euro. Alors, là aussi, malheureusement, beaucoup d'économistes sont plus maintenant, ce n'est pas possible, l'euro est éternel, etc. Et je pense que c'est une erreur de dire ça. Il faut aujourd'hui dire la réalité, voir la réalité en face, dire que oui, la fin de l'euro est possible, mais si jamais on rentre dans ce scénario, ça sera une catastrophe économique bien plus grave que la crise que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est une démarche qui est bien différente de celle qui dit que non, la zone euro ne peut pas disparaître. Bon, je pense qu'il faut justement dire que ce qu'annoncent certains, que si on sort de la zone euro, tout ira mieux, etc., c'est une contre-vérité. Donc c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, il y a un sous-titre également dans le livre, c'est « Comment la France peut encore éviter le pire ?» Et ce n'est pas une question, c'est affirmatif. Je pense qu'on peut encore éviter le pire, même si malheureusement, plus les mois passent, plus les années passent, plus ça va être difficile. Et donc, encore une fois, cette zone euro était, je pense, une grande chance pour nous. Et malheureusement, on a gâché la zone euro, et si bien qu'aujourd'hui, elle est en danger de mort, entre guillemets, en espérant même qu'on évitera ce scénario catastrophe.
Alors, doit-on revoir dans cet ordre d'idée le rôle de la BCE?
Ah, complètement. Malheureusement, alors heureusement que ça a un petit peu changé depuis quelques mois, depuis que Jean-Claude Trichet a pris sa retraite, hein, une retraite, on va dire, bien méritée, entre guillemets. Parce qu'il a fait quand même beaucoup de mal, ce monsieur, et il savait que la Banque Centrale Européenne, depuis plus de 10 ans maintenant, a constamment sacrifié la croissance sur l'autel de l'inflation. Donc bien sûr, elle n'est pas contente de tous nos maux, tout n'est pas dû à la BCE, et malheureusement, elle a aggravé la situation. Et donc c'est pourquoi aussi, beaucoup ont une image très négative de l'euro, de la zone euro, de la BCE, parce que justement, on n'a pas fait travail. Et on voit bien que depuis la nomination à la présidence de la BCE de Mario Draghi, il y a eu beaucoup de changements. Alors, ce n'est pas encore suffisant, mais tout de même, je pense que Mario Draghi a déjà sauvé la zone euro en fin d'année dernière en soutenant les banques européennes. Il a également des intérêts, donc inversant qu'avait fait son prédécesseur. Donc on voit bien que, avec pense qu'avec des sœurs, on peut quand même faire un meilleur travail. Et surtout, il faudra également changer les critères, permettre à la BCE d'acheter en direct des investissements américains, d'avoir une stratégie plus offensive sur la croissance, avec un euro plus faible par exemple, et bien sûr, si on arrive à faire ça, on va sauver la non-euro. Et donc c'est pourquoi je suis pour une BCE qui joue un rôle efficace dans l'économie et dans la zone euro, alors que jusqu'à présent, malheureusement, son rôle a été inefficace et même destructeur. Donc c'est vrai que c'est quand même bien dommage.
Alors, dans cette crise, on a parlé de la responsabilité des banques, est-ce qu'on peut la préciser un peu plus? Et concernant les marchés, la notion de taxe Tobin revient quand même de façon assez régulière dans les propos de nos politiciens. Est-ce qu'on peut, sur ces deux thèmes, donner quelques précisions?
C'est un sujet qui, évidemment, est très grave. Alors, je pense que, bien sûr, les banques ont eu leur part de responsabilité dans cette crise, parce qu'en fait, elles ont oublié l'essentiel, elles ont oublié la règle de base de la finance, et même de l'économie, voire de la vie tout court, qui est la suivante, qui est plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Donc, comme on est dans le secteur, généralement, pas trop se tromper. Malheureusement, avec cette crise des subprimes, comme on l'a appelé, l'erreur, c'est que les banques, mais aux États-Unis, mais également dans le monde entier, ont voulu laisser croire, grâce à une mathématisation extrême de la finance, qu'on pouvait augmenter le risque, augmenter le rendement, sans augmenter le risque. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu un clash. Maintenant, on revient vers une meilleure, je dirais, prise en compte de la réalité, c'est tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas faire l'excès inverse. Quand on me dit qu'aujourd'hui, il faut que les banques arrêtent de prendre des risques, c'est une erreur. Le métier des banques, c'est de prendre des risques. Mais des risques mesurés, des risques calculés. C'est là où, quand on me dit qu'on fait une taxe Tobin, bon, encore une fois, c'est une idée d'origine américaine, mais très développée en France, parce que justement, en France, chaque fois qu'il y a un problème, on veut créer un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Évidemment, ça ne résout absolument rien. Donc ça sera tout ça avec la taxe Tobin, je pense qu'on ne verra pas le jour. Enfin, le problème, c'est que comment on peut la mettre en place, comment isoler les placements spéculatifs, qui va collecter les sommes en question de la taxe, et comment, encore une fois, on va pouvoir utiliser cet argent. Il y aura des coûts de recherche, des coûts organisationnels, qui vont bien tout sera beaucoup plus cher que ce qu'elle va rapporter. Et puis surtout, malheureusement, si la France est le seul pays à le faire, ben, on aura une finance qui va évidemment quitter la France, une place financière de Paris qui va disparaître, donc ça veut dire des destructions d'emplois par centaines voire par milliers, donc on n'aura rien gagné. Donc il faut une finance plus responsable, il faut une plus grande transparence des banques et des marchés, ça c'est clair, mais créer de nouvelles taxes ne résoudra absolument rien.
Alors, dans cette campagne, certains points n'ont pas été abordés. La dette souveraine, on en a assez peu parlé. Les sureffectifs dans la fonction publique, je dirais pas plus. Les niveaux d'imposition français qui sont devenus catastrophiques. La place des TPE qui n'est peut-être pas la chose la mieux défendue, sachant pourtant que les emplois vont venir certainement de là. Et puis tout ce qui est recherche, innovation, etc., qui est plutôt du domaine du public et qui n'est pas encore vraiment intégré dans le privé. Jusqu'à la notion de l'enseignement qui mérite d'être réformé. Est-ce que tous ces points auraient dû être au cœur des débats alors que finalement ils ont été évacués?
Malheureusement, c'est un grand problème presque culturel en France. C'est que comme on a une culture économique qui est extrêmement faible, qui est extrêmement politisée, et bien on ne parle pas d'économie sauf pour faire du marketing. Donc on a des grandes idées, etc., souvent des contre-vérités, et comme malheureusement on n'a pas la culture pour vérifier, eh bien, on laisse faire, on se laisse faire finalement, et ça c'est évidemment très dommageable, hein. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs années, parce qu'une décennie que j'avais justement sensibilisé sur le code de la dette publique, tout le monde dit, mais non, la dette publique c'est pas grave, voilà où nous sommes aujourd'hui avec 90% de dette publique par rapport à notre PIB, donc c'est là la grande difficulté. Et puis parallèlement, quand on me dit, oui, il faut de la compétitivité en France, c'est vrai, mais les deux candidats, les deux finalistes, propose d'augmenter encore les impôts. Donc si on augmente les impôts, c'est clair qu'on va perdre en compétitivité. La TVA sociale, c'est bien beau. Mais si on augmente le taux de TVA, à quoi ça sert? Il faut, le problème numéro un, si on veut retrouver une certaine crédibilité, une certaine croissance, eh bien il faut baisser justement les impôts. Nous avons une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Et c'est là où c'est extrêmement décevant, c'est que malheureusement, on n'a pas pris d'engagement dans cette campagne pour baisser les impôts. Donc j'espère qu'on le saura. Le problème, c'est que pour baisser les impôts, il faut aussi baisser les dépenses. Et là aussi, on n'a pas le courage politique de baisser les dépenses publiques, qui sont quand même de 56% du PIB, au niveau les plus élevés du monde. Et malheureusement, on voit bien que ce soit la droite ou la gauche, on a continuellement augmenté ces dépenses. Et c'est évidemment bien dommage.
Alors, en conclusion, conclusion, Marc, est-ce qu'on peut éventuellement revenir sur les conséquences des grandes options qui ont été présentées par les deux candidats?
Je pense qu'il faut être clair, dès la semaine prochaine, donc après les élections présidentielles, je pense que les intérêts vont augmenter, hein, puisque globalement, quelle que soit finalement l'issue, les propositions ne vont pas dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'on va perdre en crédibilité, et que sûrement les agences de notation qui sont retenues quand même par Standard & Poor's, qui a dégradé marginalement la France, juste pour le symbole, que juste un petit cran de dégradation, c'est comme bien méchant. Je pense que là, les agences de notation vont faire un vrai boulot, vont donner la vraie note de la France, qui est certainement une dégradation d'au moins deux crans. Et c'est là où, évidemment, on va se retrouver face à la réalité, et où très vite, il faudra que le président et le gouvernement en place, à ce moment-là, eh bien, donc, nos dirigeants prennent les bonnes mesures, prennent le taureau par les cornes, et réduisent la dépense publique, réduisent la pression fiscale, et puis surtout obtiennent de l'Allemagne également une vision plus en faveur de la croissance. Hein. C'est là aussi l'erreur, hein. C'est-à-dire que la rigueur seule ne résout rien, il faut les deux à la fois. Il faut de l'assainissement budgétaire et de la croissance, avec un euro plus faible, sous intérêt plus bas, une BCE qui aide les pays en difficulté sur la dette publique, et une politique de relance à l'échelle de la zone euro. Donc les Allemands, je pense que l'instant, ils disent non, parce qu'ils veulent des garanties de la part de la France. Si la France s'engage à baisser la dépense publique, alors là, les Allemands diront oui. Donc c'est ça que tout va se jouer, je pense qu'on va se fixer dans les prochains mois, et au plus tard, je pense à la deadline sera le mois de septembre. Si en septembre, on n'a pas pris les bonnes mesures et on n'a pas fait un vrai accord avec faire plus de croissance, mais également d'assainissement budgétaire, alors là, je pense qu'on ira au clash et que la zone euro sera de plus en plus en danger. Donc espérons qu'on évitera un scénario catastrophe et que nos dirigeants feront les bons choix et seront pour une fois à la hauteur. Parce que vrai, depuis 20 ans, 30 ans, on a eu beaucoup d'occasions de réformer la France, d'en faire une terre de croissance forte, et malheureusement, ces occasions ont été touchées. Donc espérons que ça pourra changer et on fera garder évidemment l'espoir, rester optimiste malgré tout.
Eh bien Marc, on se joint à vos espérances, on se donne maintenant rendez-vous après les élections pour les 100 premiers jours du prochain président. Marc Toiti pour les lecteurs et les auditeurs de Consulting Newsline, je vous remercie.
Merci à vous et à très bientôt et bonne continuation.
Merci Marc, au revoir.
Merci, au revoir.